Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débats et de décryptage. Et ce soir, on va évidemment parler de la situation sanitaire et de la polémique AstraZeneca qui domine l'actualité avec notre invité à 18h20 qui va nous aider à y voir plus clair et on en a besoin. Le professeur Stéphane Gaudry du service de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Il est favorable, lui, vous l'entendrez, à un tour de vis sanitaire rapide. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. On reviendra sur cette cacophonie européenne dans l'affaire AstraZeneca. Pourquoi l'Europe n'arrive toujours pas à parler d'une seule voix. Et puis à 19h20, le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on vous parlera de la menace des deepfakes. Vous savez, ces vidéos truquées qui permettent d'utiliser un visage et de lui faire dire n'importe quoi. Pourra-t-on demain s'en servir pour influencer des foules, créer le chaos ou tout simplement changer le cours d'une élection? C'est sérieux. On en parlera avec nos invités car, au final, c'est notre démocratie qui est en jeu. On aura aussi vos questions au standard. N'hésitez pas à nous appeler comme chaque soir. D'abord, le journal avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Comme vous le savez, mesdames et messieurs, nous sommes dans ce qui ressemble à une forme de troisième vague.
Jean Castex, cet après-midi à l'Assemblée, pendant qu'Emmanuel Macron, lui, était avec le Conseil scientifique, l'exécutif sur tous les fronts, alors que rien ne semble arrêter la progression de la pandémie.
Oui, que l'Europe est suspendue à l'avis de l'Agence européenne du médicament sur le vaccin AstraZeneca. Cet après-midi, sa directrice a assuré que les bénéfices sont supérieurs aux risques.
Pourra-t-on échapper à un nouveau confinement? Des psychiatres alertent sur la situation très préoccupante des enfants. Leur santé mentale est en danger. Les suicides, notamment, sont en recrudescence.
Et nous serons en direct avec la chef des urgences pédiatriques au CHU de Nantes, présidente de la Société française de psychiatrie, Christelle Gras-Le-Gouen.
Il faudra désormais l'appeler commandant. Thomas Pesquet va devenir le premier astronaute français aux commandes de la Station spatiale internationale.
Oui, et puis lui aimerait bien qu'on l'appelle Dieu, tout simplement, ou carrément Zlatan Ibrahimovic. Signe son grand retour avec la Suède après 5 ans d'absence.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en petite hausse de 0,32% à 6055 points.
La météo, Anissa Haddadi, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Un temps toujours humide demain.
Oui, avec de nombreuses averses, des giboulées et des chutes de neige pour le grand quart nord-est. Les éclaircies, bonne nouvelle, reviennent par la façade ouest. Les températures restent très fraîches demain dans le nord-est. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le vaccin AstraZeneca, dont l'utilisation, vous le savez, est suspendue par la France et par de nombreux pays européens, est donc en ce moment sous les microscopes des experts de l'OMS et de l'Agence européenne du médicament.
Agence qui rendra donc son avis jeudi, mais qui dès aujourd'hui a communiqué. C'est sa directrice qui a pris la parole cet après-midi. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Face à l'énorme émotion, elle a voulu évidemment rassurer.
Oui, Emmer Cook a commencé avec un message. L'agence reste aujourd'hui encore fermement convaincue que les avantages du vaccin l'emportent sur les risques. Malgré tout, d'ici jeudi, les experts vont éplucher chaque cas de façon approfondie. Ça fait partie du travail normal de pharmacovigilance, a tenu à préciser la directrice de l'agence européenne.
Une situation comme celle-ci n'est pas une surprise. Quand vous vaccinez des millions de gens, c'est inévitable qu'il y ait des cas rares ou sérieux de maladies qui apparaissent dans les jours après la vaccination. Notre rôle, c'est d'enquêter au plus vite sur ces cas suspects avec une question en tête. Est-ce que c'est vraiment un effet indésirable du vaccin ou est-ce que c'est une coïncidence ?
Pour le savoir, les experts vont chercher d'éventuels points communs entre les patients atteints de thrombose, regarder s'ils ont des spécificités médicales, ils vont comparer les durées entre la vaccination et la formation des caillots. Bref, ils vont chercher un lien de cause à effet. On aura la réponse jeudi et si ce lien existe, l'agence précisera ses recommandations d'utilisation du vaccin. Mais ça ne sera pas sous la pression de l'émotion. La directrice de l'agence le martèle. L'expertise européenne est indépendante et uniquement basée sur la science.
Bien, merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Et sans attendre cet avis de l'agence du médicament, Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est lui voulu rassurant aujourd'hui également. Il assure que ceux qui ont déjà reçu une injection d'AstraZeneca ne sont pas en danger.
On a par ailleurs découvert en France un nouveau variant potentiel, le variant breton.
Oui, il a été identifié post-mortem sur 8 patients décédés au CHU de Lannion dans les Côtes-d'Armor. Alors d'après les premières analyses, il ne serait ni plus dangereux ni plus contagieux, mais il aurait quand même la particularité de ne pas être bien détecté par les tests PCR. À propos de tests, la Haute Autorité de Santé vient de donner ce soir son feu vert aux autotests par prélèvement nasal. C'est un nouvel outil qui va donc compléter l'arsenal du dépistage et qui donne des résultats en 20 à 30 minutes. On vous donnera le mode d'emploi dans le journal de 19h.
Ce qui est sûr, c'est que la situation sanitaire, en particulier en Île-de-France, inquiète l'exécutif. À la veille d'un nouveau conseil de défense, Emmanuel Macron s'est entretenu tout à l'heure, à 17h, avec une délégation du conseil scientifique.
Oui, Jean-Rémy Baudeau, le président multiplie les consultations.
Oui, plusieurs rencontres ce soir, des réunions pour peaufiner la réponse du gouvernement à une situation qui devient de plus en plus délicate d'un point de vue sanitaire, mais aussi politique. Vous l'avez dit, à 17h, Emmanuel Macron a reçu des membres du conseil scientifique. Dans leur dernier avis, ils préconisent une stratégie territoriale. Mais ce qui retiendra notre attention ce soir, c'est la réunion en visioconférence qui doit débuter à 18h avec des réanimateurs de zones où la tension Covid est forte. Île-de-France, Hauts-de-France ou encore PACA. Emmanuel Macron veut des retours d'expérience précis sur la situation sur le place. Il s'agit de s'assurer qu'il y a en fait encore des marges de manœuvre pour gérer la situation en évitant la case confinement. Deux pistes, pousser encore les murs dans les hôpitaux avec plus de lits, plus d'hospitalisation dans le privé. Et puis cette deuxième piste, augmenter le rythme des transferts. Le résultat des discussions à l'Élysée ce soir alimentera le Conseil de défense Covid demain, mais on est clairement dans la stratégie mise en place depuis plusieurs semaines. Tout faire pour repousser un éventuel confinement, gagner du temps, laisser le vaccin prendre le relais. Comme me le confiait un ministre aujourd'hui, tant que le système hospitalier tient, on tient.
Merci Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Oui, en tout cas, la perspective d'un éventuel nouveau confinement week-end en région parisienne inquiète. Et ce, alors que les Français ont déjà le moral plombé par toutes les incertitudes autour de ce virus.
C'est vrai qu'on n'a aucune idée de ce que nous réserve l'avenir. Et c'est particulièrement difficile à vivre pour nous, les adultes, bien sûr. Mais cette tension qui dure depuis maintenant un an affecte également beaucoup les enfants. Bonsoir, professeur Christelle Gras-Le-Gouen.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes chef des urgences pédiatriques au CHU de Nantes, présidente de la Société française de pédiatrie. Et vous sonnez l'alarme. D'après vous, la santé mentale des plus jeunes est en danger ?
Oui, tout à fait. On observe depuis plusieurs mois déjà une augmentation tout à fait spectaculaire de la fréquentation des urgences, des services de pédiatrie, de services ambulatoires aussi, sur des inquiétudes autour de la santé mentale des enfants qui sont anxieux, qui sont déprimés, qui ont des idées noires, voire des idées suicidaires pour certains, et qui s'aggravent avec les jours qui viennent.
Comment vous expliquez des pensées suicidaires chez un enfant de 10 11 ans ou même 9 ans?
Alors c'est des choses qui existent, hein, qui sont extrêmement rares, hein, mais qui peuvent être la combinaison de plusieurs facteurs, soit d'une fragilité intrinsèque à l'enfant, mais aussi à son environnement. On pense en particulier à tout l'environnement familial qui peut être parfois défaillant avec, on l'a vu, hein, une flambée de violences intrafamiliales à l'occasion des différents confinements. Ce sont des choses qui ont pu contribuer. Oui. Et puis effectivement, une morosité ambiante, une anxiété des parents qui forcément retentit sur les enfants. Les enfants sont nos éponges.
Et on voit aussi, semble-t-il, pas mal de cas d'anorexie, de boulimie.
Alors en fait, suite à un stress, ce stress peut se manifester par des symptômes totalement différents selon les individus. Certains vont arrêter de manger, arrêter de dormir, avoir des troubles de mémoire, de concentration. Et les troubles de l'alimentation font partie des symptômes qui peuvent être consécutifs à un stress ou une anxiété.
Oui, un dernier mot, professeur, en quelques secondes. Est-ce que, eu égard à ce que vous venez d'expliquer, vous craignez un nouveau confinement?
Alors, je partage effectivement les inquiétudes quant aux effets délétères potentiels d'un nouveau confinement. On l'a déjà vécu en avril dernier et tout ce qui pourra être fait pour éviter ou en tout cas limiter les effets délétères sera important, en particulier en maintenant une vie sociale aux enfants et la fréquentation des collectivités.
Merci, c'est un sujet évidemment capital, très important. Merci pour ces quelques mots, professeur Christelle Gras-Le-Gouen, en direct avec nous dans Europe Soir.
Au chapitre des bonnes nouvelles cette fois, en tout cas pour le secteur de la restauration, de l'hôtellerie et des bars. Alors, toujours pas de date de réouverture, mais un plan précis qui a été présenté aujourd'hui aux intéressés. Ils le réclamaient. Ce plan prévoit 3 phases étalées sur 3 mois. Élise Dangean vous expliquera tout ça à 19h. Notez que la deuxième phase prévoit notamment la réouverture des terrasses, si tout va bien, avant fin juin. Enfin, un peu d'horizon.
On évoquait les enfants il y a quelques instants avec notre invité. C'est un drame qui est survenu dans le Val-de-Marne qui choque énormément. Un enfant de 11 ans s'est jeté du 4e étage après avoir été puni pour harcèlement.
Il a succombé à ses blessures. L'enfant s'était fait réprimander quelques heures plus tôt par son collège pour avoir harcelé un camarade. Sa mère l'avait également grondé. Avant de se défenestrer, il a laissé une lettre d'excuse pour son camarade. On y reviendra dans le journal de 19h. Et puis notez que les étudiants ont été mobilisés aujourd'hui dans toute la France avec plusieurs manifestations pour dénoncer la précarité dont ils sont victimes, et ce, malgré les aides gouvernementales.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, on marque une pause, 18h09. Un peu d'espoir et de bonnes nouvelles dans quelques secondes, on en a besoin. Pour la première fois, un Français va diriger une mission spatiale. Il s'appelle évidemment Thomas Pesquet.
Et puis le retour de Dieu au pays. Zlatan sort de sa retraite et manifestement, il n'a rien perdu de sa légendaire modestie.
A tout de suite. Vous vous souvenez, il nous avait fait rêver avec ses sublimes photos de l'espace lors de sa précédente mission. Depuis, Thomas Pesquet a pris du galon.
Et oui, il sera le prochain commandant de la Station Spatiale Internationale dans un peu plus d'un mois. Départ de Cap Canaveral à bord d'une fusée SpaceX. Et c'est une première pour un Français lors d'Autriche.
Oui, et il sera donc le premier Français à commander un véhicule spatial. Ils sont 6 astronautes dans la Station Spatiale Internationale. Il y a un seul maître à bord, dit Thomas Pesquet, et il est très content parce que ce sera lui.
Quand il faut réagir vite, eh ben c'est le commandant qui décide, en fait, qui assigne un petit peu les tâches. Sur, par exemple, si on veut faire face à un départ de feu, un incendie, une dépressurisation, eh ben toutes les procédures d'urgence, elles sont menées un peu à la main ou au rythme du commandant de la station. C'est ça le rôle qu'on attend du commandant et qu'on attendra de moi à la fin de la mission.
À bord, l'astronaute français mènera une centaine d'expériences, dont une pour étudier le vieillissement dans l'espace. On parle parfois de ce vieillissement accéléré, mais réversible quand on revient sur Terre. Thomas Pesquet partira avec 8 ou 9 mini-cerveaux, un assemblage de cellules pour essayer de mieux comprendre les effets sur le cerveau de la vie dans l'espace. Enfin, comme lors de sa première mission il y a presque 5 ans, le chef Thierry Marx va lui préparer des plats qu'il emportera. Plusieurs menus vont être préparés, dont des plats qui plaisent particulièrement à Thomas Pesquet, du risotto, du bœuf bourguignon ou encore de la tarte aux pommes.
Il a du goût. Merci Laure d'Autriche.
Ouais, s'il faut aller dans l'espace pour manger du Thierry Marx, moi je veux bien y aller aussi. Et en voilà un autre qu'on avait un peu oublié, mais qui sait se rappeler à notre bon souvenir, un certain Zlatan comment ? Ibrahimovic.
Et oui, 5 ans après avoir annoncé sa retraite internationale, il reprend du service sous le maillot de la sélection suédoise et il entend bien que ça se sache, hein, Cyril de la Morinerie.
Oui, de l'annoncer d'ailleurs sur Twitter, et il a fait preuve, comme d'habitude, d'une très très grande modestie. Je cite « Le retour du Dieu !» Cela nous rappelle ses adieux au PSG. Souvenez-vous, je suis venu comme un roi, je pars comme une légende.
Et comment on dit ça en suédois ?
Ah, ça, c'est un petit peu trop me demander, même si je suis allé quelques fois en Suède pour le voir jouer, pour voir l'équipe de France. Alors Zlatan fait donc son comeback avec le maillot jaune suédois 20 ans après ses débuts. Ce n'est pas une surprise, hein, puisque depuis plusieurs mois, le footballeur originaire de Malmö faisait des appels du pied au sélectionneur. Il lui a rendu visite à Milan et on comprend pourquoi, parce que malgré son âge canonique 39 ans, le géant d'1m95 est toujours aussi impressionnant. Il totalise au Milan AC 16 buts en 21 matchs. Alors actuellement, c'est vrai, il est blessé aux adducteurs, mais il espère revenir très très vite avec son club italien et avec la sélection. Il promet de tout zlataner. Même si, sans lui, la Suède jouait mieux. Hein. La sélection nordique avait atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde et s'était offert une victoire de prestige face à l'équipe de France.
Elle n'a pas aimé l'âge canonique, Anissa. Merci Cyril Delmonay.
Pas du tout.
En football, hein, je précise, hein, parce que moi j'ai 40 ans.
À 39 ans, on est encore en forme. Regardez Thomas Pesquet, 43 ans,
ouais,
il part
ouais.
Dans l'espace.
Magnifique.
Merci Cyril, merci Isabelle. On vous retrouve évidemment à 18h30 pour le rappel de l'info. La météo, Anissa, le retour du soleil à l'ouest.
Oui, on va commencer par les bonnes nouvelles, effectivement. Avec du Cotentin jusqu'à la Gironde, tout le long de la façade atlantique, de belles éclaircies dès le début de la journée demain. Au bord de la Méditerranée, comme depuis plusieurs jours, le ciel reste très dégagé, une journée ensoleillée. Mais attention, s'il fait si beau au bord de la Méditerranée, c'est que nous avons du vent qui chasse les nuages. Il s'agit du Mistral et de la Tramontane qui souffle encore très fort demain, 70 à 90 km/h. En fait, c'est dans le nord-est, sur les Pyrénées et le Massif central, dans ces régions, que le temps sera le plus agité demain avec de nombreux nuages. Des averses, des chutes de neige et des giboulées. Ça, c'est le programme pour le grand quart nord-est. Dans l'après-midi, l'instabilité du nord-est va descendre jusque dans la vallée du Rhône, avec des averses dans l'après-midi. Ailleurs, et notamment le long de la façade atlantique, ça reste très agréable. Alors, les températures,
oui,
elles,
les
baissent.
Températures.
Elles baissent.
Elles
et
baissent.
Elles sont fraîches pour la saison. Surtout dans le nord-est, où on aura moins 1 à 4 degrés le matin. 4 à 11 degrés partout ailleurs, hein, 4 à Lyon, 6 à Paris, 10 à Montpellier et 11 pour Perpignan. Et puis au meilleur de la journée, c'est stationnaire, comme aujourd'hui, 6 degrés pour Saint-Étienne, 8 pour Aurillac, 10 à Limoges, 11 à Paris, 13 pour Bordeaux et Rennes, 15 à Manosque, 16 à Quimper et Marseille, sous le soleil. Alors j'ai regardé un petit peu ce qui allait se passer les prochains jours, parce qu'il y a quand même un événement très important ce week-end,
oui.
C'est le printemps.
S'il y a des bonnes nouvelles, vous nous le dites, si ce n'est pas des bonnes nouvelles, on attend un peu.
Eh ben au revoir.
Eh ben on attend un peu. vous le direz tout à l'heure.
Ouais, allez, je vous le dis tout à l'heure.
Allez, c'est l'art du teasing. Merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, Julien Bugier.
18h15, on se retrouve dans quelques secondes. Le vrai du faux sur la situation sanitaire, se dirige-t-on tout droit vers un reconfinement en Ile-de-France notamment? On posera la question au professeur Stéphane Gaudry, à tout de suite. Et ce soir, notre invité à 18h18, il est professeur au service de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Bonsoir Stéphane Gaudry.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors on va évidemment parler de la situation sanitaire préoccupante en Ile-de-France. D'abord, je voudrais vous entendre sur cette affaire AstraZeneca. Je vais vous poser la question assez directement. Est-ce qu'on en fait trop avec ce sacro-saint principe de précaution ?
Écoutez, ça dépend un petit peu de comment on voit les choses. Je pense que ce qui est bien, ça montre en tout cas à la population qu'on fait très très attention, voire peut-être trop attention. Donc le principe de précaution est appliqué. Il y a une analyse des cas, il faut se donner quelques jours. Oui. Ça peut rassurer un certain nombre de personnes qui pensaient que on faisait pas attention. En tout cas, on fait très très attention.
Quand même, professeur, ce matin sur une antenne concurrente, le professeur Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, disait on est au-delà du raisonnable. Une trentaine de cas de thrombose sur environ 5 millions de personnes vaccinées, c'est infiniment faible, alors que le virus a tué 90 000 personnes dans notre pays.
Oui, tout à fait. C'est une évidence que même si un vaccin a quelques effets secondaires qui peuvent même être graves, mais en taux extrêmement faible, de toute façon, il y a un bénéfice.
Mais pour l'instant, le lien de cause à effet n'est pas fait.
Exactement.
Donc ça repose sur rien.
Donc à la fois, ça ne repose sur rien. Et en plus, même s'il y avait ce phénomène-là, il y aurait un intérêt à utiliser le vaccin. Donc c'est vrai qu'on en fait beaucoup. Oui. Mais encore une fois, je pense que ça peut aussi permettre de rassurer la population. Mais ça a un coût. C'est que pendant ce temps-là, on ne vaccine pas. Oui. Et pendant qu'on ne vaccine pas, on ne protège pas notre population et on perd beaucoup de temps.
Je vous pose la question parce que vous parlez de confiance. Tout ça est une affaire de confiance. Il y a une défiance assez forte dans notre pays vis-à-vis des vaccins, de moins en moins, mais il y en a aussi chez les soignants notamment. La décision de l'Agence européenne du médicament qui devrait a priori confirmer l'utilité de l'AstraZeneca sera connue jeudi. Mais est-ce que cette décision de suspendre la vaccination, est-ce que ça peut avoir un impact pour convaincre les soignants qui sont un peu défiants vis-à-vis de la vaccination?
Écoutez, je ne pense pas. Les soignants, en tout cas ceux que moi je fréquente hein, dans mon hôpital, je vois bien qu'il y avait une petite défiance au début, mais qui a disparu progressivement au fur et à mesure des semaines. Et maintenant, franchement, l'ensemble des médecins qui travaillent dans mon service sont vaccinés. Le personnel, infirmiers, infirmières, aides-soignantes, ceux qui étaient un petit peu, on va dire, en retrait par rapport à la vaccination, souhaitent se faire vacciner.
Vous êtes vacciné, vous, professeur ?
Tout à fait. J'ai à la fois fait le Covid en mars 2020.
Vous avez tout fait.
Et vacciné AstraZeneca.
Bien. AstraZeneca. Ouais, et vous avez eu des effets secondaires ?
J'ai eu 24 heures de fièvre, il faut le dire. Mais comme, ça a été...
Et ça veut dire que le vaccin est efficace quand il y a des effets secondaires raisonnables.
Oui, enfin, il y a des vaccins qui ne vous donnent pas de fièvre qui sont très efficaces aussi.
Alors, sur la situation sanitaire, professeur Stéphane Gaudry, on sait qu'on a atteint un seuil critique en Ile-de-France où on compte plus de patients aujourd'hui en réanimation qu'au moment du pic de novembre dernier. 1152 malades en réa. Est-ce que la situation pour vous est encore tenable ?
Alors, je pense que la première chose à expliquer, c'est que ce chiffre n'est pas le bon. Le bon chiffre dont on doit parler, c'est le nombre de patients Covid et non-Covid en réanimation.
Et alors, quel est-il,
ce chiffre ? Il s'avère que tout le monde parle des patients Covid. Oui. En effet, il y a 1150 ou 1170 patients ce soir en réanimation en Ile-de-France qui ont le Covid. Mais figurez-vous qu'il y a également environ 600 patients qui n'ont pas le Covid et qui sont en réanimation. Ce qui vous monte à un peu plus de 1700 patients en réanimation aujourd'hui, ce soir, dans l'Île-de-France. Donc c'est beaucoup plus que les chiffres qu'on annonce. Et c'est ça qui est très important par rapport à la première vague de l'année dernière. Nous avons deux activités de réanimation Et c'est ça qui fait que ça engorge énormément le service.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la majeure partie des services de réanimation d'Île-de-France, on est à 100% du taux d'occupation de lits de réanimation ?
Alors non, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la majeure partie des réanimations d'Île-de-France, on est à 130%.
130%.
Ben oui, puisque la capacité...
Donc il y a des malades sur les brancards.
Donc, non, on a élargi nos services. On a ouvert des lits qui n'étaient pas des lits de réanimation, mais des lits, on va dire, de soins intermédiaires, oui, de soins continus, pour en faire des lits de réanimation.
Oui.
C'est ça qu'il faut expliquer.
Et le personnel.
Et on est déjà très élargi.
Et le personnel.
Et donc le personnel, il est au max de ce qu'on peut faire.
Oui.
C'est-à-dire les médecins, ne serait-ce que dans le service à Avicenne, eh bien, travaillent deux fois plus que d'habitude le week-end. Donc, on peut difficilement aller plus loin. Les infirmiers et les infirmières font beaucoup de nuits supplémentaires. Donc, on est déjà sur quelque chose qui est déjà très avancé.
Il y avait une promesse qui avait été faite par le ministre de la Santé, Olivier Véran. La mobilisation, quand la situation le nécessiterait, de 12 000 lits de réanimation temporaire. Vous les avez vus, ces lits ?
Alors, bon, c'est très difficile.
Parce que je vous vois sourire quand
parce que
vous ai posé la question.
C'est 12 000 lits, déjà, c'est en France entière. Donc, déjà, ce n'est pas en Île-de-France ou dans une autre région.
Ça change considérablement la donne, quand
même. Tout à fait. Le problème, et ça, c'est une information qu'on n'avait pas définitive, en tout cas, à l'époque, c'est qu'on sait désormais que lorsqu'on ouvre des lits de réanimation dits éphémères, c'est-à-dire dans des unités qui ne sont pas des réanimations, avec parfois des équipes qui n'ont pas l'habitude de faire de la réanimation, on va dire à temps plein, eh bien, le pronostic global des malades est moins bon que dans des unités qui ont l'habitude. Et ça, ça a été démontré par des collègues belges. Et donc, c'est vrai que...
On dégrade les soins.
On dégrade un peu. Et donc, c'est vrai qu'on peut le faire dans des cas où on n'a plus le choix. Mais quand on peut encore avoir le choix, on essaye de garder les malades dans des unités standards.
Je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas qu'en un an de crise de la Covid, on n'ait pas été en capacité d'augmenter nos services de réanimation et l'accueil des patients.
Bien sûr.
Au même niveau.
Mais bien sûr, mais c'est une évidence. Et je vais même vous dire quelque chose, dans 6 mois, on sera encore au même niveau. Puisque de toute façon, pour augmenter le nombre de lits, il faut augmenter le nombre de réanimateurs et le nombre de personnel qui travaille en réanimation. Les infirmiers et les infirmières sont des personnes extrêmement qualifiées dans les secteurs de soins de réanimation. C'est un métier extrêmement technique qui mérite d'être valorisé.
Oui.
Et donc, pour former un infirmier...
Dans quelques années, on pourra en avoir plus,
exactement.
Mais en un an de temps,
mais
c'est pas...
la question qui se posera, parce que là, tout le monde est très excité par cette situation-là, et c'est bien normal. Et donc, on réagit, parfois on surréagit. La question qui pourra se poser quand on sera sorti de ces crises, et c'est grâce au vaccin encore une fois qu'on sera sorti de cette crise, est-ce qu'on veut un système de soins qui est capable de faire face à une crise toutes les 20 ou tous les 30 ans et pendant 20 ans reste avec des lits ouverts tout le temps ? Il va falloir réfléchir à ce système-là. Il faut un système extensible, mais pas nécessairement un système qui est vide 18 ans sur 19.
Professeur Stéphane Gaudry, faut-il reconfiner l'Île-de-France ?
Alors, je vais vous répondre d'un point de vue sanitaire. D'un point de vue sanitaire, c'est une évidence. Il faut reconfiner l'Île-de-France. On est même en retard. Maintenant, il y a d'autres raisons.
Le week-end ?
Non, je pense qu'il faut... Désormais, la situation est trop grave. Il faut confiner 7 jours sur 7. Ça, c'est d'un
point
de vue sanitaire. Au moins 4 semaines.
Au moins 4 semaines.
Si on parle d'un point de vue sanitaire, c'est cela. Maintenant, vous avez d'autres questions. C'est la question politique, la question économique, la question psychique, la question d'acceptation par les populations. Mais on parle beaucoup des gens qui sont très opposés à ce confinement. Moi, je vois de plus en plus de personnes qui demandent que ce soit fait pour pouvoir avoir derrière une visibilité. Parce que là, dans l'état
actuel... Ce que montrent les sondages. Vous avez vu que les Français évoluent et il y a 65% des Français qui refusent un nouveau confinement comme en novembre dernier. Mais ce ne sont que des sondages. Professeur Gaudry, si on ne reconfine pas, si le président de la République ne prend pas cette décision politique-là, comment voyez-vous l'évolution de la situation dans 1 à 2 semaines ?
Alors, ce qui est certain, c'est que d'ailleurs, quoi qu'il arrive, dans 1 à 2 semaines en réanimation, les choses vont continuer de s'aggraver. Parce que vous savez, il y a un décalage entre le nombre de cas en ville et le nombre de cas qui arrivent en réanimation, puisqu'il y a 8-10 jours qui se passent.
Parce que vous dites qu'on n'est pas en haut de la vague, là.
Loin de là, puisqu'on a continué à augmenter le nombre d'infections acquises en ville depuis une dizaine de jours. Ça a continué d'augmenter le taux d'incidence en Île-de-France. Donc le nombre de malades en réanimation va continuer d'augmenter dans les 15 prochains jours. C'est mécanique. La question, c'est de savoir jusqu'à quand. Bah, c'est très, très difficile à faire comme évaluation si vous n'avez pas
de décisions qui sont prises. La vraie question, professeur Gaudry, c'est vous, à partir de quel niveau de saturation vous allez devoir faire ce choix entre les patients qui sont soignés et les autres ?
Écoutez, c'est extrêmement difficile à évaluer. On sait l'année dernière, en tout cas, qu'on avait réussi à monter en Île-de-France. Je parle vraiment pour les chiffres d'Île-de-France. Je suis désolé, c'est ceux que je connais le mieux. On avait réussi à monter jusqu'à 2700 lits de réanimation qui prenaient en charge des malades. Donc vous voyez, on a encore de la marge. Mais la situation était très, très différente. Il y avait deux choses importantes. On avait de l'aide de l'extérieur, d'autres régions, avec des médecins qui étaient venus. Et là, on n'en aura pas. On pouvait ouvrir des lits avec des infirmiers, des infirmières, qu'on mobilisait d'autres structures. Et là, les autres structures, elles travaillent beaucoup sur des pathologies non-Covid, donc on n'y arrivera pas non plus. Donc, ce ne sera pas possible. On n'aura pas la même marge que la dernière fois.
Un dernier mot, peut-être pour se projeter un peu plus loin, professeur Gaudry. Il y a une semaine, vous disiez qu'on peut imaginer qu'au début de l'été, on puisse largement, disiez-vous, reprendre une vie normale. Est-ce que vous le pensez toujours ?
Toujours. Je le pense toujours et je pense même, j'irai plus loin, je pense que plus vite on aura pris des décisions de confinement dans les régions dans lesquelles il se passe vraiment cette situation qu'on voit en Île-de-France, plus vite on ira vers une situation normale parce que justement on aura cassé la courbe de diffusion de ce virus-là. On en aura profité pour, on va dire, aller plus loin dans la vaccination. Et je pense que si tout se passe bien, en tout cas sur la vaccination, et j'espère bien entendu qu'on va reprendre la vaccination par AstraZeneca très rapidement, je pense que d'ici juin, juillet, on verra quand même le bout du tunnel. Notre vie ne sera pas tout à fait la même qu'il y a deux ans, mais elle sera quand même nettement mieux que ce qu'on vit en ce moment.
Bien, c'est important d'avoir un cap
tout à fait.
Et un espoir. Merci professeur Gaudry d'avoir été ce soir notre invité. On salue évidemment le travail formidable que font vos équipes et tous les soignants de France. Ils tiennent le coup d'ailleurs.
Oui, je crois qu'il y a comme d'habitude un dévouement complet des équipes soignantes pour essayer de faire face. Mais c'est vrai qu'il faut quand même le dire, depuis un an, les gens sont fatigués et ils ont peu de moments de récupération physique et mentale.
Bien, bravo pour ce que vous faites et ce que font vos équipes. Merci professeur Gaudry, merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
18h28, vous restez avec nous dans quelques secondes. Les grandes voix, pourquoi l'Europe paraît-elle encore une fois désunie face, justement, on en parlait, à la polémique AstraZeneca. On en parlera avec nos débatteurs, justement. À tout de suite. 18h30, passé de 1 minute, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
La balance bénéfice-risque reste positive, dit cet après-midi la directrice de l'Agence européenne du médicament à propos du vaccin AstraZeneca, agence dont l'avis très attendu est attendu justement après-demain. L'utilisation de ce vaccin est suspendue depuis hier en France et dans une douzaine de pays européens au nom du principe de précaution. Emmanuel Macron s'est entretenu tout à l'heure avec une délégation du Conseil scientifique et il a discuté ensuite avec des médecins réanimateurs. Un nouveau Conseil de défense sanitaire est prévu demain. L'apparition d'un nouveau variant identifié en Bretagne sur 8 patients décédés au centre hospitalier de Lannion dans les Côtes d'Armor. D'après les premières analyses, il n'est ni plus dangereux ni plus contagieux, mais il pourrait avoir la particularité de ne pas être bien détecté par les tests PCR. L'Islande va laisser entrer dès jeudi tous les voyageurs présentant un certificat de vaccination contre le Covid sans autre forme de contrôle. Et puis une confirmation, le réalisateur américain Spike Lee présidera le jury du prochain Festival de Cannes qui doit se tenir cette année en juillet, si tout va bien.
Bon, tous en vacances en Islande, donc merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal à 19h. Un coup d'œil au temps, Anissa, avec un temps agité encore dans le nord-est demain.
Oui, sur le grand quart nord-est, effectivement, le programme de demain, c'est un ciel nuageux, des averses, des giboulées, des chutes de neige, des 500 mètres. Partout ailleurs, c'est mitigé. Nous aurons le retour d'éclaircies sur la façade atlantique et puis toujours du beau temps au bord de la Méditerranée avec le Mistral et la Tramontane qui soufflent. Les températures demain matin sont fraîches avec moins 1 à 4 degrés dans l'est, 5 à 11 partout ailleurs et dans l'après-midi, c'est stationnaire comme aujourd'hui avec 7 à 18 degrés.
Merci Anissa, à tout à l'heure 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le débat des grandes voix du mardi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Et Jean-Sébastien Ferjou, ravi de vous accueillir Jean-Sébastien, cofondateur et directeur d'Atlantico. Bonsoir à vous. Alors la polémique AstraZeneca, on en parle évidemment, c'est le sujet du jour. Tout à l'heure, le régulateur européen a redit qu'il restait fermement convaincu des bénéfices du vaccin AstraZeneca. On connaîtra, Isabelle le disait, l'avis de l'agence du médicament a priori jeudi. Et on va revenir donc sur cette décision des pays européens qui ont décidé de suspendre la vaccination, car ça fait débat. D'abord, Aurélie Herbemont, est-ce que c'est une faillite européenne, cette décision en ordre dispersé de suspendre cette vaccination ? Il y a eu les pays scandinaves, le Danemark notamment, puis les Pays-Bas, puis l'Allemagne, puis quelques heures après la France, avant que l'Espagne lui emboîte le pas, l'Italie.
Ce qu'il faut préciser d'abord, c'est que le sanitaire, ça n'est pas une compétence de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre sur ces sujets-là à avoir la voix des 27 communes qui parlent d'une même voix. Donc forcément, ça facilite le côté chacun pour soi. Et vous le disiez, effectivement, ça a commencé jeudi avec le Danemark. Il n'y a pas eu trop de réactions du côté de la France. On disait non, non, tout va bien. Puis il y a eu deux autres pays dans le week-end. Et puis hier avec l'Allemagne, c'est vrai que là, mettez-vous à la place du gouvernement français. S'ils avaient dit non, non, nous on continue, quand au total vous avez une dizaine de pays européens qui disent non, on arrête par principe de précaution, ils auraient aussitôt été accusés d'être inconscients.
Mais c'est fou que la France n'ait pas été prévenue de la décision de l'Allemagne et qu'elle soit contrainte de réagir dans l'urgence, Charles Villeneuve. Comment le président Macron n'ait pas été mis au courant par la chancelière Angela Merkel qu'ils allaient annuler ou en tout cas suspendre l'espace de quelques jours la vaccination à l'AstraZeneca ?
Mais est-ce que la chancelière allemande avec le président de la République se sont concertés pour essayer de trouver un financement pour mettre au point un vaccin, pour organiser de manière commune la campagne de vaccination, de trouver des logisticiens pour le faire.
Il y a des achats communs quand même. Moi, je pensais que tout ça était organisé au niveau européen.
Non, moi, je trouve que depuis le début de cette affaire, de cette pandémie, de toute façon, l'Europe fonctionne, si vous voulez, comme claudiquante.
C'est chacun pour soi, finalement.
Non, je ne dirais pas n'importe quoi, mais je pense que dans cette affaire aussi, la décision du président de la République, elle n'est pas seulement faite pour rassurer, si vous voulez, ceux qui ont été déjà vaccinés ou ceux qui le seront à ce vaccin, AstraZeneca, mais il y a aussi, vous savez, jadis, on allait à l'église pour débusquer le diable. Aujourd'hui, on va au palais de justice. Et donc, dans cette affaire, il ne faut pas oublier que, évidemment, il y a eu le sang contaminé, mais il y a aussi la catastrophe d'ACDF, etc. Le nombre d'associations qui se sont constituées parties civiles ou pour mise en danger de la vie d'autrui compte beaucoup. Aujourd'hui,
L'excès de zèle du principe de précaution s'explique aussi par la menace pénale qui pèse sur nos politiques.
Mais absolument, pour la stricte application, autant le président de la République l'est couvert par son immunité, autant le Premier ministre, le ministre de la Santé ne le sont pas. On l'a vu encore dernièrement dans tout le déclenchement des perquisitions par rapport à un certain nombre de plaintes, notamment Édouard Philippe.
Ce qui est assez cocasse, Jean-Sébastien Ferjou, dans cette affaire, c'est vrai qu'on pensait qu'une décision comme celle-ci pouvait être prise au niveau européen de façon unanime. On voit que la Belgique, par exemple, a décidé de continuer à vacciner avec un de ses ministres, membre de son gouvernement, qui dit bah non, nous on pense que vacciner c'est plus important que laisser courir le virus. Et puis l'autorité européenne du médicament, c'est elle qui donne la validation pour la mise sur le marché d'un médicament à l'échelle européenne. On marche sur la tête, là, un peu.
Effectivement, on est dans l'incohérence absolue. Mais Aurélie le soulignait tout à l'heure, la santé ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne, sauf que on a fait le choix de faire les commandes de vaccins ensemble. Et je pense que là, ce qui se joue profondément dans cette affaire, c'est le reste du conflit initial autour d'AstraZeneca qui s'est joué entre l'Europe et le Royaume-Uni sur fond de Brexit et de tensions autour du Brexit. Et on n'arrive pas à sortir de ça, parce qu'il n'y a pas de bonne manière de regarder cette histoire-là, parce qu'effectivement, soit on le fait ensemble, et auquel cas il faut se consulter, et que l'ensemble des pays membres de l'Union européenne prennent une décision ensemble. Si on regarde d'un point de vue scientifique, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, je comprends la pression politique et je suis d'accord avec l'argument avancé par Charles Villeneuve à l'instant en disant que je pense que les hommes politiques, les responsables politiques agissent beaucoup sous la pression d'éventuelles poursuites pénales, mais d'un point de vue scientifique, ça n'a aucun sens. Il faut distinguer entre la causalité et la corrélation. C'est-à-dire que quand vous vaccinez des millions de gens, forcément, sur ces millions de gens, il va leur arriver des choses, y compris sur le plan de leur santé. Mais avant d'établir un lien, c'est très difficile. Et là, en plus, cette espèce de choix étrange de dire en 24 heures, on pourrait finalement... Je trouve qu'en termes de communication, c'est tragique, parce qu'on fait la même erreur, finalement, d'une certaine manière, pour que les juges... Vous savez, on dit, plus on poursuit des responsables politiques, plus ça montre que nous sommes un pays où tout le monde est traité de la même manière. Sauf que les Français, ils l'entendent autrement. Ils se disent, ah ben décidément, il y avait vraiment beaucoup de corruption. Et là, en matière de doute, c'est la même chose. Plus on est dans le principe de précaution et d'une certaine manière, plus on alimente le doute.
Et quand on regarde les chiffres, franchement, à ce stade, 1 300 000 personnes ont reçu chez nous en France au moins une dose d'AstraZeneca. Zéro cas de complications graves. En Grande-Bretagne, 11 millions de personnes.
Une seule en France.
11 millions de personnes qui ont reçu.
Un pompier à Arles.
Et on ne sait pas si c'est lié. 11 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose AstraZeneca en Grande-Bretagne, a priori, pas de cas graves. Donc cette décision, à l'heure où on se parle, elle ne repose sur rien.
C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a une espèce de culture du risque zéro, sauf que même si vous prenez du paracétamol, il y a des gens qui meurent de prendre du paracétamol. Donc le risque zéro, a fortiori avec des médicaments ou des vaccins, n'existe pas. Donc c'est vrai qu'on est sur un nombre de personnes infinitésimales. mais le principe de précaution s'applique. Et c'est vrai que si on compare le nombre de thromboses qui ont été découvertes à la suite des vaccinations, par exemple, quand on regarde les femmes qui sont sous contraception avec la pilule, il y a beaucoup plus d'occurrences de thromboses. Alors, oui. C'est évidemment quelque chose qu'il faut regarder. Mais c'est vrai que là, on a vraiment un principe de précaution poussé à l'extrême.
On n'est pas dans le principe de précaution. Parce que si on était dans le principe de précaution, pardon Julien, mais si on l'était, justement, on aurait mesuré le risque, à savoir que le fait de faire douter encore plus les Européens et les Français de ce vaccin-là, de prendre le risque de retarder la vaccination, à l'arrivée, ça fera plus de morts de manière certaine que les potentiels cas de thrombose.
On en parlera dans quelques secondes de l'impact sur l'opinion publique. AstraZeneca, un retard au dommage irréversible. Vous me direz ce que vous en pensez. À tout de suite, 18h40. Le débat des grandes voix avec toujours Charles Villeneuve, Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique, et Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur d'Atlantico. Alors vous disiez, Jean-Sébastien, juste avant la pause, quelque chose d'assez juste. Vous disiez, en somme, d'ailleurs c'est ce que disent certains grands spécialistes, en somme, le principe de précaution peut devenir, dans le cas d'espèce, une source de danger, finalement. Vous êtes d'accord avec ça, Charles Villeneuve ?
Oui. Oui. Mais on ne pourra pas l'éviter, pour les raisons que je vous ai exposées dès le départ. On ne pourra pas l'éviter. Le politique aujourd'hui, de toute façon, tout dépend du politique. Ça ne dépend pas en réalité des scientifiques, ni du conseil scientifique. On le verra encore tout à l'heure, vraisemblablement. Gabriel Attal a laissé percer le bout de l'oreille sur les décisions que le président de la République va éventuellement prendre, qui seront adaptées, qui seront territoriales, qui seront ville par ville, etc. Ce sera, si vous voulez, très méticuleux sur ce plan-là, parce que ils n'oublieront pas qu'il a une marque de fabrique, le président de la République, mais en même temps, il est obligé de tenir compte justement du risque pénal. Oui. Le politique aujourd'hui est placé sous l'œil du juge. Et ça, on ne peut pas le négliger compte tenu de ce qui s'est passé il y a encore quelques semaines.
Alors, il y a une autre conséquence à tout ça, c'est quand même qu'avec ce stop à la vaccination AstraZeneca, on perd un potentiel de plus de 2 millions de vaccinés uniquement pour les deux prochaines semaines. D'où ma question, Aurélie Herbemont, est-ce que ça remet en cause l'objectif fixé par le président de la République ? Ah oui. Et donc, ça induit une question politique très forte dans le contexte actuel, l'objectif de 10 millions de vaccinés d'ici la fin juin.
Si on reste sur deux jours d'arrêt depuis hier après-midi et qu'à partir de jeudi, l'Agence européenne du médicament dit non, on peut continuer. Bon, deux jours, c'est pas dramatique.
Oui, mais il va falloir convaincre les Français derrière.
Exactement, parce que tout à l'heure, c'est un sondage Elab pour BFM TV qui montrait que 58% des Français ne font plus confiance au vaccin AstraZeneca.
Évidemment.
Par comparaison, c'est 25% qui ne font pas confiance au vaccin Pfizer. Donc, on voit qu'il y a un décrochage pour un vaccin qui n'était déjà pas extrêmement populaire. On se souvient, il y avait eu les états grippaux comme effet secondaire. Donc, c'était un vaccin qui déjà ne faisait pas très envie. Et tout à l'heure, un conseiller me disait « Ah non, mais l'AstraZeneca, en fait, il est mort. Plus personne ne va vouloir ce vaccin-là. » Alors, d'autres relativisent en disant « Non, mais de toute façon, en fait, on n'a pas le choix. La seule solution, c'est la vaccination. Donc, il y aura quand même des gens pour se faire vacciner. » Mais donc, c'est vrai qu'il va falloir refaire une campagne de promotion de l'AstraZeneca. D'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que tout à l'heure, le ministre de la Santé, Olivier Véran, à l'Assemblée nationale, redisait avoir confiance en ce vaccin et qu'on en avait besoin, alors qu'il vient d'être suspendu. C'est très paradoxal. Alors, il va falloir reconvaincre les Français d'utiliser les doses qui arriveront.
Jean-Sébastien Ferjou, la défiance en même temps, elle peut changer de camp. Ça peut s'inverser. On l'a vu d'ailleurs au début de la campagne de vaccination, vous vous souvenez. On a beaucoup parlé, on a beaucoup débattu sur le fait que les Français étaient défiants et ne voulaient pas se faire vacciner. Puis petit à petit, les choses sont rentrées dans l'ordre. Est-ce qu'il peut se passer pareil avec l'AstraZeneca quand il repartira sur le marché, si c'est le cas ?
Souhaitons-le, en tout cas, parce qu'effectivement, le retard que nous sommes en train de prendre, on le paiera en nombre de vies et on le paiera d'un point de vue économique. Et on sait également tous les dommages qu'il y a, plus cette épidémie dure et plus on prend de risques d'ailleurs que de nouveaux variants interviennent. Moi, je crois quand même que les dommages en termes de défiance, ils seront très très lourds. Ils le seront sur l'AstraZeneca incontestablement. Et puis, ça va être difficile pour le gouvernement maintenant, alors qu'il nous expliquait ces dernières semaines que c'était un vrai problème éthique, que les soignants n'acceptent pas de se faire vacciner avec le AstraZeneca. Et puis finalement, on se dit, deux semaines après, si, on suspend tout ça en disant, vous inquiétez pas, parce que les résultats, on les a déjà. Hein. Enfin, ce qu'on nous a dit hier, ce qui est juste totalement absurde, mais vraiment profondément absurde et grave en termes de communication politique, d'autant qu'il y a aussi la défiance politique. C'est-à-dire que je crois que personne ne fera crédit au gouvernement d'avoir pris cette décision-là, quand l'épidémie aura avancé, on ne se souviendra pas « Ah tiens, ils ont été courageux pendant 24 heures sur ce sujet-là ». En revanche, on se souviendra de ces hésitations et de ces volte-face incessantes.
Bien, alors maintenant, il y a un frein qui, si vous voulez, peut intervenir, et j'espère provisoirement, c'est l'opinion que donne, l'analyse que donne l'avis du Conseil, dans son avis, le Conseil scientifique, qu'il a remis au président de la République le 11 mars, et où il indique que la santé mentale des Français s'est dégradée avec des niveaux élevés d'états anxieux ou dépressifs.
Oui.
Alors ça, évidemment, quand vous allez leur présenter, évidemment, parce qu'ils n'ont pas de choix en ce moment, si vous voulez, la plupart des vaccins qui sont disponibles, les doses, c'est de l'AstraZeneca. Bon, là, elles sont au frigo, elles vont être ressorties, je pense, demain après-midi, demain soir, et d'ici la fin du week-end. Mais de toute façon, quand vous discutez avec la plupart des copains, des patients qui sont des futurs patients, ne serait-ce que samedi ou dimanche,
oui,
ils vous disent tous, l'AstraZeneca, je ne préfère pas. S'il y avait un peu de Pfizer, de Moderna, peut-être de Johnson, Johnson.
Son vaccin, demain, on aura tout vu.
Alors qu'au début, c'est vrai qu'on avait peur des vaccins ARN messagers, donc du Pfizer, qui maintenant est devenu le vaccin parfait.
Oui,
le
parfait. De reproduire la même erreur avec le vaccin russe, parce que l'Agence européenne du médicament est en train d'émettre les mêmes doutes que ceux qu'elle avait mis au début sur l'AstraZeneca, c'est-à-dire que nous n'apprenons de rien.
Alors, ça s'arrange. Je vous donne quand même les derniers chiffres. Il y a quand même 5 600 000 Français qui ont reçu au moins une dose de Pfizer. Oui. Et il y a 1 350 000 Français qui ont reçu une dose d'AstraZeneca. Donc vous voyez quand même que dans la population française, c'est majoritairement le Pfizer qui est aujourd'hui administré. On marque une nouvelle pause, 18h47.
Ils ont commencé à livrer plus tôt.
Exactement, 18h47 et on se retrouve dans quelques secondes. On parlera du reconfinement. Que doit décider le président de la République? Il est au pied du mur, dit-on. A tout de suite. Débat des grandes voix du mardi 8 avec toujours Charles Villeneuve, Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique, et Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur du site Atlantico. Alors on parle maintenant de reconfinement. Emmanuel Macron consulte avant le Conseil de défense qui se tiendra donc demain, comme chaque mercredi. Une réunion s'est d'ailleurs tenue en fin d'après-midi autour du président à l'Élysée avec les membres du Conseil scientifique. Et cet après-midi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex a dit ceci.
Comme vous le savez, mesdames et messieurs, nous sommes dans ce qui ressemble à une forme de troisième vague, caractérisée par des variants. Le cas du variant dit britannique prend une place de plus en plus importante.
Bon, qu'est-ce qui peut décider le président de la République, Aurélie Herbemont? Je sais que vous n'avez pas forcément la réponse, parce qu'il nous a réservé plein de surprises depuis quelques semaines, le président.
Et parce que peut-être qu'à l'heure où nous parlons, le président n'a pas encore la
décision,
réponse lui-même non plus, puisqu'il consulte, vous le disiez. Ben, la tendance, en tout cas, s'il y a un constat sur lequel ils sont à peu près tous d'accord, c'est que la situation est tendue. Mais toute la question qui devra être tranchée demain, notamment dans le Conseil de défense, c'est est-ce qu'on a encore une petite marge de manœuvre pour pousser les murs, augmenter les places en réa, via les évacuations sanitaires, pour éviter le mot tabou, la chose dont personne ne veut, qui est un reconfinement. C'est ça qui va devoir se décider. Est-ce qu'on a encore les moyens d'attendre et de pouvoir passer cette troisième vague sans aller jusqu'au reconfinement.
Compliqué, Jean-Sébastien Ferjou, de reconfiner un an, jour pour jour, après le premier confinement du printemps. Politiquement, c'est compliqué d'assumer ça.
Moi, ce que je trouve perturbant, c'est qu'effectivement, le gouvernement s'enferme dans cette alternative confinée ou ne pas confinée. Alors, effectivement, ils essaient de repousser les murs.
Il n'y en a pas
comme
beaucoup d'autres en même temps, des options.
Mais si, bien sûr que si, il y en a d'autres. Alors qu'il n'y a pas de baguette magique. Et encore moins quand vous êtes dans une phase de développement intense de l'épidémie. Et bref, on a entendu un certain nombre de responsables politiques douter des prédictions des épidémiologistes. Elles étaient quand même assez justes sur la deuxième moitié du mois de mars, et notamment à partir du moment où on avait constaté que le variant britannique était plus contagieux que la souche. Exactement. Oui, mais ce qui était totalement prévu et prévisible. Mais il y a des moyens. Regardez, si, de toute façon, si on reconfine et qu'on laisse les écoles ouvertes et qu'on laisse les entreprises ouvertes et qu'on ne gère pas les contaminations dans les hôpitaux qui sont le troisième grand lieu de contamination dans le pays, de toute façon, confiné ou pas confiné, ça ne change strictement rien ou quasiment rien. Ça changera d'autant moins que l'efficacité des confinements est directement corrélée au niveau de confiance ou de peur qu'éprouvent les Français à un instant T. En plus, ils ne sont pas aveugles.
Quoi 100% de télétravail, fermeture des écoles, si je vous suis,
je crois qu'il a été très courageux de la part du gouvernement de maintenir les écoles ouvertes. Oui. C'est catastrophique quand on voit d'autres pays où elles sont fermées depuis un an, où les enfants...
Absolument.
En revanche, donnons-nous les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire la campagne de tests salivaires massive qu'on nous a annoncée il y a plusieurs semaines. Les objectifs étaient à 50 000 tests par semaine. Jean-Michel Blanquer les a ramenés à 3 000. Il y a 286 000 classes, je ne vous parle pas d'élèves, classes de primaire, je ne vous parle même pas de maternelle, ni de lycée. Donc 3 000 tests par semaine, ça vous dit, On est totalement dans l'absence d'ambition. On aurait pu recruter des gens pour mener cette campagne salivaire. C'est-à-dire que si on veut maintenir les écoles ouvertes, faisons du test salivaire massif, ouvrons les fenêtres. Il y a des moyens de gérer l'aération. Il y a les moyens de coupler l'aération avec des appareils de purification d'air. D'un point de vue industriel, c'est pas très compliqué. Ça ne coûte même pas si cher que ça. Nous ne le faisons pas. Il y a l'analyse des eaux usées qui permet de repérer très très vite et avec 6 jours d'avance sur les tests.
C'est Laurent Vauquier qui a acheté des purificateurs d'air. Il s'est un peu fait moquer, mais visiblement, il a demandé une étude, et c'est concluant.
Et donc, cette efficacité qu'on ne veut pas investir dans le quotidien, en quelque sorte, et encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Hein. Ce n'est pas avec ça que l'épidémie se finit demain. Alors, mais ça permet quand même de réduire les contaminations, Charline, et on ne le fait pas.
Sur le reconfinement, sur l'hypothèse, on va dire ça comme ça, de reconfinement. D'ailleurs, on ne sait pas bien si c'est une hypothèse 7 jours sur 7 ou simplement le week-end, comme à Dunkerque et à Nice.
Moi, je crois que d'abord, il n'existe pas de méthode scientifique, puisqu'ils consultent là, peut-être à l'heure où nous parlons, ou l'a-t-il déjà fait, le conseil scientifique. Il n'existe pas de méthode scientifique pour décider d'un confinement, d'un reconfinement. Si j'ai bien compris, et ce que mes camarades ont fait aussi comme enquête, etc., c'est qu'il va poser un certain nombre de questions au conseil scientifique, qui se résument à 4 ou 5 questions très importantes, paraît-il, pour lui. Combien de personnes vont perdre leur emploi? Combien de personnes vont faire une dépression? Combien de femmes, de toute façon, vont être battues ou tuées par leur conjoint? Parce qu'il y en a quand même un certain nombre. On n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Combien de vont manquer l'école? En tout cas, vraisemblablement, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont retenus. Tout à l'heure, justement, Sébastien Ferjou parlait des écoles et du fait qu'on ne les fermera pas, mais le nombre de tests qui ont été faits dans ces écoles montre que ça n'est pas là où se trouvent les clusters. Bon. Donc, il est vraisemblable que les écoles, d'abord, resteront ouvertes. On a vu le plaidoyer.
Oui, Jean-Michel Blanquer l'a rappelé, d'ailleurs.
Voilà, oui. Absolument. Et donc, je pense que, comme le dit très bien Gabriel Attal, sans nous dévoiler, évidemment, l'issue de la décision, il va prendre des restrictions, ça c'est évident, de manière adaptée et proportionné.
Oui.
Et je trouve que le mot proportionné...
Il faire croire qu'il fait quelque chose, oui. Que c'est un peu ça le aussi, problème, c'est que c'est juste de l'affichage.
Il peut aussi ne rien décider. Enfin, pardon, mais ça fait partie des hypothèses.
Ah, Vous avez vu ce qui s'est passé toutes les semaines, on a déjà vécu cette scène.
Attention, on va confiner, puis on ne confine pas. Ce qui est vrai, c'est que le président est obligé d'arbitrer, notamment avec la question sanitaire, mais il n'y a pas que ça. Et c'est tous les sujets qu'évoquait Charles Villeneuve. Il faut voir les conséquences économiques, sociales, morales d'un confinement. Oui. Donc, il faut vraiment faire du dosage, voir là où il faut vraiment frapper très fort et ce qu'on peut maintenir ouvert un maximum.
Le sujet devient quasiment, quelle est l'idée que les Français retiendront, en tout cas c'est aussi comme ça que résonne Emmanuel Macron, que retiendront-ils, étaient-ils volontaires, pas volontaires, étaient-ils enfermistes, pas enfermistes? La réalité, c'est que collectivement, nous avons fait un choix, alors sans nous l'avouer, sans nous le dire, nous avons fait le choix de vivre avec beaucoup de morts, parce que comme je vous le disais, tout ce qui est intermédiaire entre le confinement et pas le confinement, tout ce qui peut s'apparenter à du zéro Covid, nous avons collectivement décidé que nous ne voulions pas le faire.
Merci, merci à tous les trois et on verra les annonces évidemment en direct à suivre sur Europe 1. Merci à tous les trois d'avoir animé le débat des grandes voix de ce mardi. Dans un instant, le journal, toute l'info, Isabelle Millet. Et puis le club des idées, ce soir on va vous parler de la menace des deepfakes. A tout de suite.